Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. L'archéologie antique a connu depuis une vingtaine d'années un renouvellement profond. À côté de l'épigraphie et de l'étude des textes, l'archéologie de terrain est venue apporter une masse considérable de données nouvelles. Ce renouveau ne tient pas seulement à la quantité des données récoltées, mais aussi aux méthodes inédites maintenant employées. Les analyses scientifiques d'investigation renversent nombre d'idées reçues et permettent des expérimentations pratiques pour reconstituer, par exemple, des parfums auxquels ce cours est consacré. Jean-Pierre Brun, titulaire de la chaire Techniques et économies de la Méditerranée antique, nous renseigne dans ce cours sur l'emploi des parfums dans le monde antique méditerranéen. Il nous a intéressés hier au plus ancien témoignage sur la fabrication et l'utilisation des parfums dans l'Orient antique. Dans la Mésopotamie du second millénaire avant Jésus-Christ, notamment à Mari, site particulièrement bien documenté puisque, comme nous l'avions appris grâce à Jean-Marie Durand et à ses cours d'assyriologie, un incendie a cuit et donc conservé les tablettes des archives du palais. Mais on trouve également des sources importantes sur la fabrication et l'usage des parfums en Égypte, en Judée et à Chypre, lieu de naissance d'Aphrodite, ainsi qu'en Crète, en Grèce, en Étrurie et à Rome, puis naturellement dans le monde chrétien, marqué par l'épisode de Marie-Madeleine qui recouvrit de parfums les pieds du Christ. Ce soir, Jean-Pierre Brun revient plus particulièrement sur les usages des parfums en examinant des sources écrites, mais aussi des nouvelles données archéologiques. Écoutez.
Voyons maintenant comment se sont précisés et développés ces usages au cours de la période gréco-romaine, en suivant l'ordre d'apparition dans les sources, ce qui n'est pas garant de l'ordre réel, si tant est qu'il y ait eu un ordre. Mais il faut bien ordonner la documentation si on veut la rendre compréhensible. Commençons par la Grèce. Pour le culte, le parfum a été employé sous deux formes. Donc, les résines à brûler, principalement l'encens, et l'onction des statues de culte et des animaux à sacrifier. Brûler des substances odorantes pour les dieux remonte à loin, nous l'avons vu. On brûle donc des graisses, mais aussi des résines comme l'encens, dont le parfum est censé attirer les dieux. Le verbe « tuein » signifie « faire fumer », par extension « sacrifier ». Brûler l'encens, brûler des huiles parfumées, brûler la graisse, les os, etc. L'encens, en particulier, combat les mauvaises odeurs associées à une faute. Par exemple, dans Œdipe roi de Sophocle, la peste de Thèbes est combattue par des fumigations d'encens et de baume pour rétablir la pureté divine. L'exemple du sanctuaire d'Apollon à Délos vaut pour tous les autres. L'hymne homérique à Apollon, en 87, chante cet endroit où existera à jamais l'autel parfumé d'encens et le lieu sacré consacré à Phoïbos. Au moment de la naissance d'Apollon et d'Artémis, l'île en aurait été parfumée, selon Callimaque, qui évoque Astéria parfumée d'encens. Lorsque les Grecs conquirent l'Égypte, ils suivirent les rites égyptiens forts d'une antique tradition et continuèrent de s'approvisionner en Arabie. Et rappelons donc l'inscription de Zaïd ibn Zaïdou Zahiran, trouvée à Saqqara, qui était un arabe qui procurait la myrrhe et le calamus au temple des Égyptiens vers la fin du IIe siècle avant notre ère. Les huiles parfumées ont été aussi employées dans l'entretien des sanctuaires et des statues, entretien qui incombe aux prêtres, aux employés et à des familles de notables qui sont en charge de tel ou tel culte par tradition. D'une façon plus commune, toute pierre dressée et sacralisée, par exemple des pierres de carrefour, était régulièrement enduite d'huile parfumée. Théophraste, dans les caractères en 11.5, évoque le superstitieux qui, chaque fois qu'il passe aux côtés de pierres luisantes érigées au carrefour, les asperge de l'huile de son lécite. En fait, ces pierres peuvent être à la fois des statues d'Hermès ou d'Hécate, mais ça peut être aussi des pierres en iconique. Hein. Apollon, par exemple, était parfois représenté sous la forme d'une pierre conique apotropaïque qu'on plaçait devant les portes des maisons et que l'on enduisait aussi d'huile parfumée. Les argoïs litoïs, par exemple, se trouvaient à Métaponte, devaient être aussi enduits d'huile parfumée. Ces argoïs litoïs, ce sont donc des pierres dressées qui étaient mises dans les temples et qui n'étaient pas inscrites ni décorées. Mais les emplois les plus évidents dans les sources concernent la cosmésis, c'est-à-dire la toilette des statues, qui comprend la restauration de leur polychromie, le vêtement, les bijoux, les couronnes et le parfum. On l'a pratiqué chaque fois qu'une grande fête intervenait, et par exemple les contes des Hiéropes de Délos, au IVe et IIIe siècle avant Jésus-Christ, donnent des précisions sur ces traitements et indiquent les sommes d'argent nécessitées par ceux-ci. Gary Reger a étudié les contes entre 304 et 169 avant Jésus-Christ dans son ouvrage intitulé « Regionalism and Change in the Economy of Independent Delos » paru à Berkeley et à Londres en 1994, et il a repris la question dans un article qui s'appelle « The Manufacture and Distribution of Perfume » paru dans un recueil intitulé « Making, Moving and Managing the New World of Ancient Economy » paru à Londres en 2005. J'en extrais quelques passages. Il indique qu'au mois de Galaxion, qui est à peu près février-mars, pour la cosmésis de l'Artémision et de la statue de la sœur d'Apollon, on achète des éponges, du natron, de l'huile d'olive, de l'huile parfumée et surtout de l'huile à la rose, donc du muron rhodinone, ainsi que de la cire d'abeille. On voit donc que ces pratiques étaient extrêmement courantes et nécessitées par les besoins religieux et que cela créait une demande certainement importante de la part de tous les sanctuaires. Et comme vous le savez, dans la Grèce ancienne et dans le monde grec, il y avait des sanctuaires absolument partout. Un traitement particulier était réservé aux statues chryséléphantines qui nécessitaient d'être traitées à l'huile pour que l'ivoire ne se dessèche pas. Mais, en l'occurrence, il s'agit alors d'un traitement de conservation et non d'embellissement à l'huile parfumée et n'entre donc pas directement dans notre propos. L'onction du cadavre pour les funérailles est un autre type d'utilisation des parfums à l'époque grecque. On enduit le cadavre avec des onguents parfumés et c'est un rite qui tire probablement ses origines de la nécessité de préserver quelque peu le corps en attendant l'inhumation ou l'incinération. C'est un rituel très ancien dont on a les premières attestations dans l'Iliade. Le corps de Patrocle est oint de parfum. Et je vous renvoie au chant 18 de l'Iliade, au vers 349-351, et à la mort d'Hector, son corps est préservé par les onguents qu'apporte Aphrodite. Et c'est rapporté au chant 23, au vers 184-187. Par la suite, cette tradition d'un rituel assimilant le mort à un héros se perpétuera, notamment lors des funérailles aristocratiques. Et ici, sur cette photo, je vous ai mis simplement une représentation d'une prothésis, de l'exposition d'une défunte dans une tombe lucanienne de Pestum du IVe siècle, très influencée par l'iconographie grecque. Et vous remarquez qu'à côté de la défunte, sur le lit funéraire, se trouve un alabastre qui est la représentation et la symbolisation du traitement que subit le corps au moment de cette prothésis, de cette exposition. Archéologiquement, le rituel d'oindre le corps et de parfumer l'urne est présent dans les tombes les plus anciennes. Je cite seulement deux exemples. En Orient, la nécropole de Yalissos à Rhodes livre systématiquement des flacons dans les tombes à partir du 8e siècle. Par exemple, la tombe 393 du 3e quart du 8e siècle contenait des vases à parfum chypriotes accompagnés d'imitations qui attestent donc à la fois l'importation et la fabrication locale. En Occident, la nécropole de Pithecus, fouillée par Giorgio Buchner dans les années 60 et 70, a livré un grand nombre de tombes du haut archaïsme, de la période orientalisante. Et dans la tombe 168, qui est datée des environs de 720 avant Jésus-Christ, tombe particulièrement célèbre parce que c'est celle de Nestor, ce personnage qui a gravé sur la coupe de la partie haute ici son nom et un distique qui évoque la pratique du banquet. On a donc un ensemble qui symbolise toute la vie dans l'autre tombe, mais aussi la bonne vie terrestre, c'est-à-dire tout le service à banquet avec la coupe donc de Nestor et le cratère, et comme vous le voyez en partie basse, un ensemble de vases à parfum, en l'occurrence de 6 flacons à parfum, qui associent donc à la fois le parfum aux funérailles, mais peut-être aussi, comme nous le verrons, au banquet aristocratique. Dans les tombes d'Athènes, à partir de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, on assiste à une multiplication des lécites, toujours couchés et donc vidés, probablement lors des cérémonies de la présentation du corps. Une observation analogue a été faite dans la fouille menée avec beaucoup de soin par Antoine Hermari, Christina Panayotova et Dimitar Nedev dans la nécropole d'Apollonia du Pont à Sozopol, en Bulgarie, nécropole dite de Kalfata, et qui a été publiée récemment, qui a été publiée en 2010, sous le titre Apollonia du Pont, la nécropole de Kalfata, 5e siècle, 3e siècle avant Jésus-Christ, chez Actes Sud. Cette nécropole, à partir du début du IVe siècle jusque dans la seconde moitié du IIIe siècle, livre des tombes qui contiennent 1 à 5 vases à parfum. Ce sont surtout des lécites. Alors j'ai pris comme exemple la tombe 338, qui est du IVe siècle avant Jésus-Christ, parce qu'elle m'a paru très caractéristique. Et en effet, dans ces tombes, assez systématiquement, l'un des lécites aribalisques est volontairement cassé, en général au col, et les autres sont intacts. Dans plusieurs cas, les tessons du vase cassé sont répartis autour du corps, et c'est un exemple qu'on trouve dans d'autres nécropoles, comme celle de Myrmécéion en Crimée. Dans certains cas, il manque même des tessons, ce qui indiquerait que le bris du vase n'a pas été fait sur place, mais au moment de la prothésis à la maison même, et on aurait donc emporté une partie du vase afin de symboliser le soin qu'on a mis à préparer le corps, à lui donner l'apparence qu'il est censé conserver dans le monde des morts. On voit donc comment une fouille bien conduite, minutieusement suivie, permet de reconstituer les gestes et donc les usages, enfin en tout cas une partie des usages des parfums. Les lécites sont donc placées, comme vous le voyez, autour du mort, tout autour du squelette. Et aussi, on les trouve sur la tombe elle-même, car lors des cérémonies funéraires et lors des visites successives, notamment les visites d'anniversaire, on apporte des fioles et des couronnes. Et c'est ainsi qu'à partir des années 470 avant Jésus-Christ, un grand nombre de lécites à fond blanc qui représentent des scènes funéraires nous montre ce type de cérémonie qui se fait sur la stèle. Là, j'ai choisi deux exemples des sites à fond blanc conservés à l'Ashmolean Museum d'Oxford. Et vous voyez donc les visiteurs, sur celle-ci, une dame qui est en train de verser du parfum, et sur celle-ci, elle obtient aussi un exhalatron, qui est un autre type de conteneur à parfum, et un alabastre, et elle verse le contenu de l'alabastre sur la stèle. Des morts, nous pouvons remonter jusqu'aux malades et voir que, durant toute l'Antiquité, on a aussi utilisé les parfums pour soigner. En fait, pendant toute la période, la pharmacie, où nous l'entendons aujourd'hui, ou la droguerie et la parfumerie ne sont pas vraiment distinctes. Les mêmes procédés aboutissent à des onguents utilisés aussi bien pour soigner que pour parer. Certains sont spécifiques, notamment les parfums composés, compliqués, destinés aux aristocrates, mais la plupart des parfums des bases pouvaient avoir des applications thérapeutiques. Et il est significatif que les recettes qui nous sont parvenues sont transcrites dans des traités de médecine. Dans la pharmacopée hippocratique, l'huile est ainsi largement employée, autant que le vin, dont l'alcool dissout de nombreuses substances. L'huile végétale est en effet une base qui sert à élaborer des remèdes sur lesquels on fixe des principes odorants qui y étaient supposés actifs, et on les mélange à de la farine, à du miel ou à du vin. Les médecins font la distinction entre l'huile pure qui est essentiellement l'huile d'olive, et le parfum, qui l'un s'appelle Elaion et l'autre s'appelle Muron. Ce Muron peut être l'huile parfumée à la rose, qu'on trouve très fréquemment, le Rhodinon Elaion, l'huile parfumée au narcisse, le Narcissinone, au lys, à l'iris, l'irinone, etc. Ces huiles parfumées sont utilisées en pessaire, en onction, en lavement, en infusion, en application, par exemple, sur le visage, car l'huile préserve l'épiderme, l'hydrate et la nourrit. Hippocrate et ses successeurs l'emploient surtout pour le traitement des maladies gynécologiques, des accouchements et des avortements. Lydia Boudou cite à ce propos la prescription suivante du corpus hippocratique du traitement de l'avortement. Quand une femme se blessant, l'enfant ne sort pas, soit parce qu'il est putréfié, gonflé, soit parce que quelque chose de ce genre l'empêche de sortir, il faut employer du jus de poireau, d'ache exprimé à travers un linge, un cotyl d'huile de rose, un quart de cotyl de graisse d'oie, trois oboles de résine fondue dans de l'huile. Un peu plus loin, on apprend qu'on doit injecter l'huile de narcisse et du vin doux. Et à défaut d'huile de narcisse, on prendra de l'huile de lys ou d'iris, la meilleure possible. L'huile sera le tiers du vin. On voit donc que les odeurs diffèrent selon les recettes et selon les prescriptions, et il semble clair qu'elles n'ont qu'un rôle secondaire et que l'important, en l'occurrence, c'est bien l'huile qui aide à évacuer et qui aide à adoucir, ainsi que l'alcool que contient le vin et qui sert à désinfecter. Dans les traités hippocratiques, on ne trouve pas de recettes de médicaments précisément, mais à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, Théophraste, dans son traité des odeurs, confirme que, je cite, les médecins utilisent des substances aromatiques qui ont des caractéristiques astringentes et échauffantes, comme le parfum à l'iris, et qui ont donc aussi des vertus pharmacologiques. Des traités postérieurs, dont l'existence nous est révélée par Athénée, devaient contenir des recettes ou d'autres recettes. On sait par exemple qu'il existait un ouvrage de Philonides au 1er siècle avant Jésus-Christ et un autre d'Apollodore dont les passages concernaient le traitement des maux de tête et notamment après boire, et on utilisait pour cela des parfums. Malheureusement, ces ouvrages sont perdus et les recettes également. Des parfums particuliers faisaient l'objet de prescriptions précises. L'aegyptione, donc le parfum égyptien, est souvent prescrit par Hippocrate. Théophraste indique qu'il était préparé à base de cannelle, de myrrhe et d'autres ingrédients. Et je vous renvoie au paragraphe 28 du Deodoribus. Certaines villes s'étaient d'ailleurs fait une spécialité de fabrication de parfums à visée thérapeutique. Athénée cite le traité sur les parfums d'Apollonios l'Hérophiléen qui évoque les meilleurs lieux de production, l'Égypte et la Syrie. Il dit les meilleurs métopiones et mendésiones sont préparés en Égypte. Et Pausanias, dans la Périégèse, au livre 9, paragraphe 41, rapporte que, à son époque, on produisait à Chéronée en Béotie des parfums à base de lys, de rose, de narcisse et d'iris qui étaient utilisés en médecine. Archéologiquement, les témoignages sont bien plus rares, bien entendu, car on voit mal comment on trouverait trace de ces gestes. Tout au plus, peut-on se tourner vers quelques découvertes épigraphiques qui fournissent quelques inscriptions. J'en ai retrouvé une du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, trouvée à Lébénan en Crète, et qui est une dédicace à Asclépios qui mentionne l'utilisation du rhodinone pour soigner un ulcère. De cet usage médical, nous pouvons commencer à passer aux usages profanes qui sont bien entendu surtout tournés vers la séduction, séduction hétérosexuelle et séduction homosexuelle. Mais on trouve aussi quelques mentions du parfum employé pour le bien-être domestique et notamment en parfumant les maisons. Amphis, dans une comédie, met en scène Pénélope préparant l'accueil d'Ulysse en brûlant un encens royal et le faisant enduire de mégaléon, un parfum qui était alors hautement célèbre. On parfumait aussi le vin pour lui donner une bonne odeur et l'adoucir. La pratique remonte là aussi très haut dans le temps, avec l'ajout de térébinthe dans les vins de l'âge du bronze et de miel. Théophraste mentionne les aromates qu'on a ajoutés au vin dans le Deodoribus, au paragraphe 8 et 9. Et au paragraphe 10, il indique que du parfum et des substances aromatiques parfument subtilement le vin, alors qu'il gâte le goût de certaines nourritures. Au paragraphe 11, qui suit donc, il spécifie que les vins doux qui n'ont pas de parfum ont besoin d'être parfumés par adjonction d'aromates. Et au paragraphe 67, il traite spécifiquement de la myrrhe et disant « Plus les poudres parfumées sont composées de nombreux éléments, plus elles sont de bonne qualité. En les mêlant au vin, elles accroissent le parfum de certaines substances odorantes et certaines résines comme la myrrhe. » Et il conclut « Le vin est une substance susceptible d'absorber les odeurs, ce qui sera repris par Pline bien plus tard dans le livre 13 au paragraphe 25. » Du vin, on peut passer à l'utilisation du parfum comme statut symbole. Dès l'époque archaïque, au témoignage d'Archiloque, on se parfumait et on se parfumait notamment les cheveux. Or, une chevelure longue est un symbole de statut social. Les héros et les dieux ont les cheveux longs. Chez Homère, par exemple, au chant 2 de l'Iliade, paragraphe vers 323, ou au chant 2 de l'Odyssée en 408, et cette longue chevelure a une valeur terrifiante, selon Hérodote qui fait un parallèle avec la Gorgone. Et de fait, Léonidas et les Spartiates, avant leur combat désespéré aux Thermopyles, sachant la mort venir, soignent particulièrement leur chevelure. Et je vous renvoie à ce bel article de Jean-Pierre Vernant qui s'appelle « La mort dans les yeux », paru en 1985. Or, le complément normal d'une belle chevelure était de la parfumer. Se laisser pousser les cheveux et les parfumer signifiait faire partie de l'aristocratie ou bien vouloir sortir de sa classe sociale pour vouloir s'intégrer à l'aristocratie. Nous en avons un intéressant témoignage de cette association chevelure longue, parfumeur et désir d'ascension sociale dans un passage d'Anacréon qu'a réinterprété Luca Soverini 1994 dans un article paru dans les Annales de la Scuola Normale di Pisa. Le vers conservé par le grammairien Héphaestione nous dit « Demande à Stratis le parfumeur s'il se laissera pousser la chevelure. » Ce qui signifierait, d'après Soverini, que le parfumeur, enrichi par son commerce, voudrait bien s'assimiler aux aristocrates en se donnant l'aspect des aristocrates, donc en se laissant pousser les cheveux et en se les parfumant. De là, bien sûr, nous passons à la séduction. Dans l'Iliade et l'Odyssée, les huiles parfumées sont au cœur des entreprises de séduction. Les déesses sentent bon par nature, car étant nourries de nectar et d'ambroisie, elles exhalent une bonne odeur. Mais lorsqu'elles veulent parvenir à leur fin, elles n'hésitent pas à utiliser en plus des parfums composés. Et cette question a été bien développée par Lydie Baudioux et Véronique Mel dans un article qui s'appelle « Sociologie des odeurs en pays grec » paru en 2008. Ces deux auteurs ont bien défini les modèles comportementaux fournis par les déesses qui utilisent les parfums pour séduire. Par exemple, dans l'Iliade, au chant 14, vers 171-174, Héra, voulant détourner Zeus de la guerre de Troie, cherche à le séduire en enduisant son corps d'une huile onctueuse, impérissable et suave, parfumée pour elle. Pour la déesse, le parfum est donc une arme qui fait pendant aux armes d'airain des héros. De même, Aphrodite se parfume pour aller séduire Anchise dans l'hymne homérique à Aphrodite en 58-66. Or, ce qui se passe dans l'Olympe est bien sûr le reflet de la vie sur Terre. Les déesses se comportent comme des femmes et les femmes imitent les déesses. La toilette des déesses, notamment la célèbre toilette de Héra dans l'Iliade que nous venons de voir, deviendra le modèle à suivre pour les femmes mariées. En cela, la Grèce suit la longue tradition orientale. En Mésopotamie, le rituel du mariage sacré prévoit que la déesse Inanna commence sa toilette par le lavage du corps avec de l'eau et du détergent, puis qu'elle s'enduise d'huile parfumée au cèdre et aux autres essences, et ensuite qu'elle s'habille et se maquille en se mettant du fard à joues, du bistre aux yeux, et qu'elle se coiffe. Et je vous renvoie à un ouvrage de Cramer, paru en 1983, qui s'appelle « Le mariage sacré à Sumer et à Babylone », qui donne tous les détails sur cette question. Donc, là encore, une longue tradition, et on voit bien que la touche finale de cette toilette est donnée par le parfum, qui porte une forte connotation érotique. On a d'ailleurs des représentations parlantes sur certains vases peints. Un Lécite Aribalisque du Suckling Painter, qui est un peintre apulien du début du IVe siècle, représente Aphrodite allaitant Eros, alors que de petits Érotès s'échappent du coffret à flacons. C'est donc la métaphore des parfums volatiles qui sont à proprement parler des agents érotiques. Passant des modèles divins aux applications humaines, Hésiode, dès le 8e siècle, évoque dans les Travaux et les Jours, au vers 515-523, la jeune fille qui a baigné son corps délicat et d'une huile onctueuse l'a effleurée. Donc les femmes s'en enduisent de parfums, la tête et les seins. Archiloque, né vers 542 avant Jésus-Christ, au fragment 38, chante « Les filles de Thasos », les cheveux et les seins inondés de parfums. Et Sappho, qui est à cheval entre la fin du 7e siècle et le début du 6e siècle avant Jésus-Christ, au fragment 94, mentionne ce fier parfum, ce royal parfum que tu répandais sur les jolies boucles de tes cheveux. Un siècle et demi après, dans l'Assemblée des femmes d'Aristophane, au vers 524, Praxagora, soupçonné de sortir de chez son amant, dit à son mari « Sens si mes cheveux sont parfumés ». Et il répond « Comme si une femme ne pouvait pas faire l'amour sans parfum ». Et elle lui réplique alors « Pas moi en tout cas ». Dans les Acarniens, Aristophane à nouveau se moque du contraste entre le paysan et la citadine. Cette dernière se distingue de la paysanne par ses dépenses de parfumerie. Et le paysan, donc, dit cette phrase « Et voilà que j'épouse la nièce de Mégaclès, moi, un campagnard, elle, une citadine, une demoiselle. Le jour du mariage, je sentais le vin nouveau, les clés de fromage, la laine, l'abondance en un mot. Elle, les parfums, le safran, les baisers lascifs, en un mot, la dépense. » Et cette verve comique donc, est poursuivie par Antiphane vers 340 avant Jésus-Christ dans la comédie « Les hommes de Torikos » ou « Le Minotaure » où il se moque des excès dans l'utilisation des parfums, mettant en scène une femme sortant du bain avec son coffret orné d'or et contenant un parfum dont on nous dit être un myrrhone égyptien, parfum pour les pieds et les jambes, un autre parfum à l'huile de palme pour les joues et les seins, du sisembrium à l'huile de menthe aquatique utilisée pour les bras et du mélilotone pour un autre bras, de l'huile d'americanos pour les cheveux et les sourcils, du thym, de l'huile au thym pour le cou et les genoux, etc. Donc, tous les excès possibles dans ces comédies. Un personnage d'Anaximandre, qui est un auteur de la comédie moyenne vers 375-340 avant Jésus-Christ, remarquant qu'une femme s'est enduite le corps de Mégaléon, la compare immédiatement à quelques futures mariées promises à un roi. Donc, si le parfum fait partie essentiellement de la sphère féminine, et on voit donc sur cette image qui est un peinte sur une céramique apulienne à figure rouge, on voit l'illustration de cette toilette féminine. La dame est devant une vasque contenant de l'eau et vous voyez, elle donne la dernière touche à sa toilette en s'enduisant de parfum. Elle tient un alabastre à la main. Et nous avons un autre exemple d'une scène du même genre où des dames sont devant un l'outrone, un lavabo, et elle se lave, et vous voyez dans la partie supérieure de la pièce est pendu un lécite, qui évidemment est le signe qu'après la toilette, elle se parfumera. Mais si ce parfum donc fait partie essentiellement de la sphère féminine, il ne faut pas croire que les hommes ne se parfumaient pas. En effet, Théophraste, dans le Deo Doribus, au paragraphe 42, estime, comme certains parfumeurs d'aujourd'hui, que certains parfums conviennent mieux aux hommes qu'aux femmes. Et de fait, dès l'Odyssée, on voit bien que les hommes se parfument. Télémaque, à la sortie du bain, est frotté d'huile, au chant 3, vers 466. Et c'est une fonction, donc, d'être frotté d'huile parfumée à la sortie du bain, fonction que l'on retrouvera tout au long de l'Antiquité. Il n'était d'ailleurs pas concevable d'aller au bain sans apporter avec soi sa feuille de parfum pour l'onction qui devait suivre. Mais c'est dans la sphère des amours masculines que le parfum joue un grand rôle. Alors, il est souvent difficile, à partir de l'iconographie, de distinguer si on a affaire à l'utilisation d'huile parfumée ou non, car les athlètes qui vont à la palestre emmènent toujours avec eux un haribal qui contenait de l'huile. Mais cette huile pouvait être pure, ça peut être de simple huile d'olive, et ça peut être aussi bien de l'huile parfumée. Alors, vous voyons ici l'exemple, il y en a tant d'autres, d'une stèle funéraire de la collection Borgia conservée à Naples, aux alentours de 480 avant Jésus-Christ, et vous voyez donc un athlète appuyé sur son bâton qui tient un narybal à la main. Et ici, des hommes qui se parfument après la douche, ou en tout cas s'enduisent d'huile, dans une représentée sur une hydrie d'Antiménès. Mais certainement, au-delà de l'usage du parfum à la palestre, on utilise le parfum lorsque on cherche à séduire les garçons. En effet, donc, les hommes et les garçons se parfument après les fêtes, après le sport et pour leurs amours. Et nous avons ici un bel exemple de l'association des deux. Vous voyez donc des érastes et des éromènes, et vous voyez que chaque fois, ils tiennent des flacons à parfum. Et un très beau cadeau pour un éraste envers le garçon qu'il veut séduire est de lui offrir donc des vases à parfum, contenant des parfums, et particulièrement des vases qui représentent des coqs ou des lièvres, car le lièvre mort a une charge érotique que l'on retrouve donc en cette double allusion. Ça fait partie des cadeaux traditionnels que font les hommes mûrs aux garçons qu'ils veulent séduire. Et nous voyons ici deux exemples de ces flacons en forme de lièvre mort et qui ont été fabriqués à Rhodes au VIe siècle avant Jésus-Christ. D'une façon générale, donc, nous l'avons vu, il y a un lien très fort entre l'aribal, la palestre et l'homosexualité, et nous voyons ici la palestre en quelque sorte symbolisée par, sur cette coupe du musée de Charlottenburg à Berlin, symbolisée par les aribales qui sont pendues au mur et les éponges. Mais on se parfumait aussi lors des banquets. Dans le banquet de Xénophon, Socrate se lance dans une tirade contre les parfums, disant que les seules odeurs qui conviennent aux hommes sont celles de l'huile de la palestre et l'odeur de la vertu. Mais la réalité, dans le cas présent du banquet auquel Socrate est convié, est tout à fait différente et bien plus crue. C'est que Callias, le riche citoyen qui a organisé le banquet, est amoureux d'Autolycos, un jeune homme qui vient de vaincre au Pancras. Alors, pour le séduire, il organise en son honneur un banquet pour lequel il a acheté du parfum de prix qui sert à enduire les invités. Ainsi, faisant étalage de sa richesse et de sa distinction, il espère parvenir à ses fins. Cette pratique aristocratique remonte elle aussi à l'âge du bronze. Un mari, le roi, fait distribuer des parfums à ses invités. Et elle est attestée par de nombreux témoignages littéraires, épigraphiques, papyrologiques et iconographiques. Hicésios, chez Athénée, au Ier siècle, témoigne du grand raffinement atteint par l'usage des parfums pour les banquets. Et je vous renvoie donc au livre 15 d'Athénée, paragraphe 689, où il est dit « Le parfum à la rose convient bien au symposium, de même que les huiles à la myrrhe et au coin. Le lente est stomachique et garde l'esprit clair. Les parfums à la marjolaine, au serpolet, conviennent à un symposium de même que le safran, s'il n'a pas trop de myrrhe avec lui. Le fenugrec est suave et délicat. L'huile de géroflée a une bonne odeur qui facilite la digestion. » On voit donc qu'un grand raffinement, en tout cas au moins à l'époque hellénistique, avait conduit à des spécialisations de certains parfums pour les banquets. Et on a quelques attestations, donc, en dehors de la littérature classique, dans l'épigraphie. On a par exemple le testament d'Épictète à Théra, qui établit des repas pour l'anniversaire de la mort de son mari, et ces repas incluront des vins étrangers de bonne qualité, nous dit-on, des couronnes, de la musique et des parfums. C'est une inscription publiée dans les inscriptions grecques en 1303-330. En 114 avant Jésus-Christ, un papyrus de Thepnis nous rapporte que un club aristocratique faisait donc des banquets, et le papyrus nous donne la liste des couronnes que l'on avait achetées pour cette occasion, des dépenses diverses, donc qui comprennent les couronnes, la location d'un joueur de flûte, des lampes, du vin, et ainsi que des parfums. En parallèle, on assiste tout au long de la période à la dénonciation du luxe excessif qui était symbolisé par les parfums. Et par exemple, chez Xénophane de Colophon, nous dit-on, les habitants de Colophon s'adonnèrent très vite à la manie du luxe dès qu'un traité d'alliance eut été conclu avec les Lydiens, et dès lors on ne les vit plus paraître en public qu'avec une chevelure artistiquement rangée et semée d'ornements précieux, ce qui explique donc sa réaction vigoureuse, et Xénophane dit « N'ayant que trop bien assimilé les leçons inutiles autant que funestes des Lydiens en matière d'excentricité, en un temps où la tyrannie leur était encore épargnée, ils se rendaient à l'assemblée affublés de manteaux de pourpre, tétanisés par le raffinement avec lequel ils avaient paré leur chevelure tout imprégnée de parfums recherchés. » On voit donc toute cette palette d'utilisation des parfums, dont évidemment les dernières consistant à les utiliser pour séduire les hommes et les femmes n'étaient certainement pas les dernières ni les moins importantes. Alors voyons voir maintenant comment cette utilisation s'est transmise à l'Occident, en commençant par l'Étrurie et l'Italie pré-romaine. Les Étrusques ont été aussi de très grands consommateurs de parfums. Les parfums importés, surtout de Corinthe, à partir de la fin du 8e siècle et surtout au cours du 7e siècle, ont suscité très rapidement des imitations étrusques en impasto, c'est-à-dire en céramique modelée, en bouquet onéro, et à partir de la deuxième moitié du 7e siècle aussi, des véritables imitations de céramique corinthienne que l'on appelle l'étrusco-corinthien. Mais à quoi les Étrusques employaient-ils leur parfum ? L'emploi, autant qu'on puisse le voir, principalement à partir des découvertes archéologiques, est certainement lié au symbole du statut social. Dans l'abondant mobilier trouvé dans les tombes aristocratiques de toutes les villes étrusques, on peut déceler certains flacons qui étaient des vases personnels que le défunt avait utilisé et qui marquait son rang et qui signifiait à la fois sa richesse et son appartenance aux cercles aristocratiques caractérisés par l'adoption du luxe oriental et la connaissance de l'écriture. Et à ce titre, un aribal comme celui du milieu, qui est couvert d'inscriptions de même que celui-ci qui a été trouvé à Montalto di Castro, est significatif. Comme l'a souligné d'ailleurs Dominique Briquel dans un article qui s'appelle « Les inscriptions portées sur les vases à parfum étrusque » paru dans le catalogue de l'exposition qui avait été organisée en 2008 par le Musée royal de Marimont en Belgique et qui s'appelle « Parfum de l'Antiquité, la rose et l'encens en Méditerranée ». Briquel donc a analysé très finement 11 inscriptions, on n'en a pas beaucoup plus, 11 inscriptions étrusques sur des flacons principalement en bouquet onéro. Il s'agit principalement de marques de propriété au nom d'hommes et de femmes, comme par exemple Tanaquil Cancina, qui montrent à quel point les vases à parfum étaient alors des objets personnels de grand prix ou bien des cadeaux prestigieux et dédicacés. C'est le cas, par exemple, de l'Aribal des années 630 avant Jésus-Christ, de la collection Borgia, Aribal qui avait été donné par Veltur Pupiana et qui est un témoignage des dons et des contre-dons des princes étrusques archaïques. Les nobles procédaient à des échanges ostentatoires de cadeaux qui étaient encore valorisés par l'écriture, qui est une marque de prestige, car évidemment, ça montre que les aristocrates qui s'échangent ces cadeaux savent lire et écrire. Et cela explique donc le rôle décoratif de cette écriture, de ces textes, qui peuvent être insérés de façon très artistique, comme vous le voyez donc dans le cas de la Ribalde de Montalto di Castro, qui a été publié par Mauro Cristofani dans La Parole del Passato en 1975. Et vous voyez très bien sur la diapositive que la dédicace suit un trajet serpentin cerné par deux traits qui représentent donc un serpent. Comme en Grèce, le vin et le parfum sont deux composantes du luxe des élites. Ils sont liés au banquet et à l'érotisme. Les cadeaux de vin et de parfum sont donc des dons parfaits pour entretenir les relations d'amitié, c'est-à-dire de dons et de contre-dons. Un témoignage plus récent de cette valeur de statut symbole est donné dans la tombe récemment fouillée de Tana Presni Plekounia Umraliza, qui a été trouvée à Chiusi en 2005 et qui est une tombe sensiblement plus tardive de la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. La tombe contenait un coffret de bois à l'intérieur duquel il y avait un alabastre en albâtre égyptien qui contenait encore les restes d'onguent. Et ce dépôt d'un vase importé montre qu'on avait voulu, mettant dans la tombe un vase venu de la prestigieuse Égypte, on avait voulu montrer que la dame s'affirmait comme faisant partie de l'aristocratie locale. Pour les usages funéraires, donc, notre première source de renseignement vient de la fouille des nécropoles et des représentations funéraires, surtout dans les tombes peintes de Tarquinia et dans les bas-reliefs en pietra fétide de Chiusi, par exemple. Les parfums servaient, comme en Grèce, dans le rituel funéraire pour la toilette du mort, et les flacons étaient déposés dans la tombe après avoir servi à cette toilette. Mais au-delà de cet usage évident, le parfum faisait partie du viatique pour l'au-delà, avec les produits alimentaires destinés à cette seconde vie très diminuée, certes, mais qu'on imaginait continuer dans les tombes maison. Le mobilier mis à disposition du défunt pouvait être suffisamment abondant pour lui garantir sa survie dans l'au-delà, et il existe des tombes qui contiennent des jarres à provisions, des braseros pour faire la cuisine, des marmites et des services à boire. C'est le cas, par exemple, de la tombe numéro 4 de Monte Abatone à Cerveteri, qui contenait dans la pièce principale 8 pitoi, c'est-à-dire 8 grandes jarres, plusieurs grands vases et des vases à boire. La tombe a été publiée par Rizzo en 2007. Les dépôts de vases à parfum reflètent donc à la fois les rites funéraires, mais aussi la vie que le défunt menait dans la vie réelle et qu'il souhaitait continuer à mener dans l'au-delà, une vie de fête et de banquet. Dans la tombe des léopards de Tarquinia, on voit donc au fond la scène de banquet qui est bien connue, et de chaque côté les serviteurs qui apportent diverses sortes de cadeaux, du vin, etc. Et l'un d'eux tient à la main un grand alabastre. Il est donc en train d'apporter les parfums qui serviront à enduire les participants à ce banquet. Et bien entendu, c'est toujours difficile, archéologiquement, de faire le départ entre ce qui était déposé dans la tombe pour accompagner le défunt dans sa vie nouvelle de l'au-delà et les parfums qui avaient été utilisés lors de la cérémonie funéraire elle-même, comme par exemple dans ce bas-relief de Chiusi, conservé au musée du Louvre, où vous voyez les dames qui tiennent les vases à parfum et qui sont donc en train de préparer le corps pour l'inhumation. D'un point de vue archéologique, on a quelques exemples bien clairs désormais, grâce à des nécropoles bien fouillées, de cet usage des parfums. Dans la nécropole de Ponte Cagnano, à côté de Salerne, qui est une sorte de poste avancé des Étrusques vers l'Italie du Sud, on est pratiquement à la limite entre la zone majoritaire d'influence grecque, avec la colonie de Poseidonia, et on est donc dans ce golfe de Salerne, où, à la suite d'une démarche pionnière de la surintendance dans les années 60, on a pu fouiller des milliers de tombes de toute période, depuis le Chalcolithique jusqu'à la fin de l'Empire romain. Et la nécropole de Ponte Cagnano est surtout connue grâce aux travaux de Bruno D'Agostino, de Luca Cerchiai et désormais de Maria Assunta Cozzo, est surtout connue par la qualité des tombes et la richesse des tombes de l'époque orientalisante et de l'époque archaïque. À partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, on voit apparaître dans les tombes de Ponte Cagnano les aribales, qui distingue clairement les hommes et les enfants mâles des femmes. C'est un signe de l'acculturation grecque, le marqueur d'un usage et qui nous renvoie à la pratique de la palestre et donc de la bonne éducation. Dans une communication que Maria Assunta Cozzo avait faite dans un colloque tenu à Naples en 2011, elle avait présenté, par exemple, le cas de la tombe 1964 de Ponte Cagnano, où on voit que l'aribale, qui contenait de l'huile ou de l'huile parfumée, apparaissait dans certaines tombes d'enfants, et dans ce cas précis, dans une tombe d'enfants entre deux onokoé et un skyphos, et qui montre bien que dès l'âge de 3 à 5 ans, qui est l'âge estimé de ce squelette, il y a une projection de l'identité d'adulte sur les enfants et de ce qui fera ou de ce qui était censé faire leur vie future, et donc une vie de banquet et une vie de palestre et d'huile et d'huile parfumée. Ce marqueur culturel, donc des exercices à la palestre, se retrouve aussi dans beaucoup d'autres tombes, y compris dans les représentations, comme la tombe de la Chimie de Chiusi vers 480, où, dans un contexte de sport, un contexte athlétique, un serviteur apporte un petit aribal à l'athlète qui fait des exercices. Enfin, comme partout, les huiles parfumées servaient de médicaments et les Étrusques étaient réputés pour leur fabrication de médicaments. En tout cas, Théophraste, dans l'Histoire des plantes, au livre 9, paragraphe 15, qualifie le peuple étrusque de tyrennon pharmacopoion, c'est-à-dire de pharmacopoion ethnos, c'est-à-dire de fabricant de médicaments, en quelque sorte. Et l'Étrurie et le Latium sont d'ailleurs des contrées riches en plantes, d'après lui, les plus riches en plantes en dehors de la Grèce, et c'est une tradition qui se continuera à l'époque romaine.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec ce soir Jean-Pierre Brun, titulaire de la chaire Techniques et économie de la Méditerranée antique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne de Pelchin. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite du cours consacré à la fabrication des parfums dans l'Antiquité. Et nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.